Chapitre 5. Chamontin. Aucun nom n'était plus populaire dans la contrée que celui-là, qu'on était habitué à répéter et qui, depuis qu'il avait commencé à être connu, avait toujours été grandissant, de telle sorte qu'il était arrivé à emplir le pays de son importance. Aussi loin que les plus vieux paysans remontaient dans leurs souvenirs, ils se rappelaient avoir prononcé ce nom quand ils n'étaient que de petits enfants. Celui qui le portait alors était un vieux meunier établi sur la Marne, entre Champs et Gournay. C'était chez lui qu'il faisait moudre le blé récolté sur leurs terres, non encore livré comme maintenant à la petite culture, et le bonhomme, en veste grise, rapportait lui-même la farine, monté sur ses sacs, les jambes écartées, un gros fouet à manches courtes autour du cou. C'était le premier des Chamontins, au moins le premier qui eût laissé un souvenir encore vivace pour quelques-uns. À celui-là en avait succédé un autre qui, ne se contentant plus de moudre le blé des petits paysans des environs, avait acheté les récoltes des gros fermiers de l'abri et, pour les travailler, avait fait successivement construire autour du moulin paternel, dans les îles de la Marne, un groupe d'usines qui était devenue une des minoteries les mieux outillées et les plus importantes des environs de Paris. Enfin, à ce deuxième, en avait succédé un troisième, le père du jeune homme qui venait d'entrer dans la salle, et c'était celui-là qui avait donné au nom de Chamontin tout son éclat. Le premier avait été un simple meunier, le second un habile industriel, le troisième était un spéculateur qui occupait une place considérable dans le monde des affaires. À la mort de son père, celui-là aurait pu vivre tranquillement avec la belle fortune dont il héritait comme fils unique, mais ni la tranquillité ni le repos n'étaient dans son caractère, il lui fallait le travail et la lutte avec les satisfactions orgueilleuses que donne l'ambition triomphante. Et justement, il avait toutes les ambitions. Celle de l'argent aussi bien que celle des honneurs et du rang. Bonne pour son père, les minoteries de la Marne étaient insuffisantes pour lui. Il avait commencé par les agrandir autant que le permettait la chute d'eau que la rivière mettait à la disposition de ses turbines, puis il les avait complétées par des usines à vapeur qu'il avait élevées à la Villette sur les bords de l'Ourcq, en même temps qu'il entreprenait de grosses spéculations sur le commerce des grains, qui, en quelques années, faisait de lui une puissance financière avec laquelle les plus forts devaient compter. On était alors en plein dans la période heureuse où toutes les affaires se mettaient en action. Les minoteries de la Marne et de l'Ourcq étaient entrées dans la règle commune et ils s'étaient formés pour leur exploitation une société au capital de 10 millions divisée en 20 000 actions de 500 francs. Si bon enfant que soit l'actionnaire, il serait sans doute resté froid en présence d'une pareille majoration si on avait trouvé un moyen de la justifier. Pour cela, on avait remplacé dans les moulins de la Marne et les usines de l'Ourcq les meules en pierre par des cylindres en fonte. C'est-à-dire qu'à l'ancien système de mouture, on en avait substitué un nouveau qui devait, disaient les annonces, révolutionner l'industrie de la meunerie en France et lui permettre de soutenir la concurrence avec ce que l'étranger produisait de meilleur. C'était une affaire nationale, une souscription patriotique. Ainsi présentée, l'émission avait eu un magnifique succès. Toutes les actions avaient été enlevées et la prime obtenue avait été assez belle pour permettre aux fondateurs de l'affaire de se débarrasser avantageusement de celles qu'ils s'étaient attribuées. Un outillage neuf, une marque estimée, un homme de l'expérience et de la capacité de Chamontin à la tête de l'entreprise, comment n'avoir pas confiance ? Cependant, les prévisions sur lesquelles l'affaire était basée ne s'étaient pas réalisées. Mais il y avait eu cela de consolant et d'honorable pour ceux qui l'avaient organisé et qui la dirigeaient, que la faute de cet échec ne pouvait pas leur être imputée, elle remontait jusqu'à la Providence. En effet, pour assurer l'approvisionnement de ces usines et de ces moulins qui allaient consommer 1800 sacs de blé par jour et produire 1000 sacs de farine, on avait fait à l'avance des achats considérables de récoltes dans l'abri, dans la Beauce et dans tout le rayon de Paris. Jamais l'agriculture nationale n'avait été à pareille fête. Mais il s'était trouvé, cette année-là, que le temps avait été pluvieux et que le blé, rentré mouillé, était resté spongieux et tendre. Or, les fameux cylindres qui devaient révolutionner l'industrie française sont en usage dans les pays où l'on ne récolte que des blés secs et durs qu'ils écrasent admirablement. Qu'on leur donne au contraire un grain tendre à moudre, ils ne l'écrasent plus, ils le laminent. C'était ce qui s'était produit avec les blés mous de la Brie et de la Beauce. Mal récoltés, ils s'étaient laminés et pour décoller les gruaux, il avait fallu leur faire subir une série d'opérations fâcheuses. La farine avait mal pris l'eau en exigeant des boulangers beaucoup de travail, si bien qu'en quelques mois, la marque des minoteries de la Marne et de l'Ourcq, qui était une des premières, alors qu'elles opéraient avec des meules, avait été dépréciée, les boulangers n'en avaient plus voulu. La vente était devenue difficile, presque impossible. Les cylindres étaient jugés, condamnés. De dégringolade en dégringolade, les actions étaient tombées à 23 francs, et encore, ne trouvait-on pas à les vendre. C'était alors que Chamontin avait montré ce dont il était capable. Puisqu'il avait causé ce désastre, il devait le réparer. Il avait fait racheter à 20 ou 25 francs toutes les actions qu'on pouvait lui trouver, et pour 400 000 francs, il était redevenu l'unique propriétaire de ses anciennes usines, qui, quelques mois auparavant, avaient coûté 10 millions aux actionnaires. À quelque prix que ce fût, il devait sauver une entreprise qui portait son nom. Et il l'avait sauvée. Au lieu de donner à moudre à ses cylindres des blés français tendres, il leur avait donné des blés étrangers durs, et sa farine était redevenue ce qu'elle avait toujours été, l'égale des meilleurs. En quelques mois, sa marque, dont personne ne voulait plus, avait repris son rang, l'un des premiers. Décidément, c'était un malin, un habile. Il avait été recherché par les lanceurs d'affaires et tous les conseils d'administration qui avaient besoin d'un homme de sa capacité s'étaient empressés de lui ouvrir leurs portes. Ses preuves étaient faites, il était digne d'entrer. Pour cela, il n'avait pas abandonné ses minoteries de la Marne, au contraire, il les avait encore agrandies en perfectionnant leur outillage. D'immenses magasins avaient été construits pour abriter un approvisionnement de blé de plusieurs mois. Un chemin de fer à voie large avait été construit pour les relier à la grande ligne et faire arriver les wagons à leur quai sans rompre-charge. Enfin, un service régulier de bateaux à vapeur lui appartenant avait été organisé pour aller prendre à Rouen les chargements de grains qui arrivaient de l'Amérique et de l'Inde. Elles étaient sa gloire, ses minoteries et son orgueil. C'est de là qu'il était parti, du vieux moulin dont les bâtiments noircis et chancelants avaient été conservés, pour devenir l'homme qu'il était maintenant. Il tenait à s'en vanter en répétant « Je suis un parvenu, le fils de mes œuvres ». Et comme si ce n'était pas assez de dire et de répéter ce mot qui cependant se trouvait 20 fois par jour sur ses lèvres, il avait voulu qu'un monument durable l'affirmât plus haut encore. Dans la façade de ce vieux moulin, il avait fait sceller une belle plaque de marbre sur laquelle on lisait en lettres d'or « Ce petit moulin qui date du XIIIe siècle et qui tournait encore en 1830 a été le berceau des Chamontins. » Les Chamontins remontaient-ils au XVIIIe siècle? L'inscription ne le disait pas, mais on pouvait le supposer. Pourquoi pas? 6 siècles de meunerie dans la famille, c'était de l'aristocratie et de la bonne celle-là. Précisément parce qu'il était arrivé haut, il voulut monter plus haut encore, et des conseils des sociétés financières passaient dans ceux de la France où il saurait prendre une place plus en vue et plus glorieuse. Il acheta un journal et, avec l'aide d'un teinturier qui avait des idées et de la discrétion, il y publia des articles retentissants pour préparer sa candidature. 2 ans après, et sans avoir dépensé plus d'un million, il était député et, le lendemain de cette élection, les pays situés sur la route que suivent les voitures Chamontin pour apporter les farines à Paris, Noisy, Brie, Nogent, Vincennes, voyez ces voitures passer, pavoisées de drapeaux, les chevaux enguirlandés de rubans tricolores pour fêter ce triomphe démocratique d'un fils de ses œuvres. Le fils de ses œuvres n'avait pas l'ambition égoïste et ce n'était pas pour lui seul qu'il voulait le triomphe, il le voulait aussi pour les siens qui devaient le continuer et atteindre plus haut encore que là où il était arrivé, son fils parce qu'il serait son fils, sa fille par le mariage. Et ce mariage, il l'avait réussi comme tout ce qu'il entreprenait. L'année précédente, Mademoiselle Calix Chamontin, arrière-petite-fille du vieux meunier, celui qui montait la côte de Gournay à califourchon sur ses sacs de farine en faisant claquer son gros fouet pour annoncer son arrivée, avait épousé Marie-Guy-Philippe Audréic, duc de Paradan, l'unique héritier des Paradan, militaire sous Louis XIV et Louis XV, où leur nom a brillé de son plus vif éclat, parlementaire sous la Restauration, simplement intrigant sous Napoléon III. Sous la République française ruinée à plat et si parfaitement que, sans un honnête département de l'Ouest qui avait ramassé le duc pour en faire un député, celui-ci n'aurait pas eu de quoi manger. C'était à la Chambre qu'il s'était connu, et tout de suite, Chamontin avait compris que ce duc ruiné était le gendre que la Providence lui destinait, comme le duc avait trouvé dans Chamontin le beau-père qu'il lui fallait. Sans les finasseries de Chamontin pour diminuer la dot, sans celle du duc de Paradan pour la grossir, le mariage se serait fait tout de suite. Mais à la fin, après une lutte qui avait accru l'estime du gendre pour le beau-père, en même temps qu'elle accroissait celle du beau-père pour le gendre, on s'était mis d'accord et Chamontin avait eu la joie de pouvoir dire « La duchesse de Paradan, ma fille ». Au temps où Chamontin, jeune encore, agitait ses rêveries ambitieuses en se promenant autour du moulin paternel, l'un de ses désirs les plus âpres avait été d'acheter un jour, quand la fortune lui serait venue, le château qu'il voyait devant lui chaque fois qu'il levait les yeux vers la colline et dont le parc en amphithéâtre descendait par ses vertes pelouses et ses massifs boisés jusqu'à la Marne. Quelle plus éclatante manifestation de la puissance de l'argent que de remplacer dans ce noble château, aux dispositions grandioses, la vieille famille qu'il avait fait construire au XVIIIe siècle et de devenir par lui le seigneur du pays où son grand-père n'était qu'un artisan. Ce désir, il avait pu le réaliser à coup d'argent et c'était dans la chapelle de ce château que Calixte était devenue duchesse de Paradan. Quelle fête pour les villages environnants que ce mariage! À Noisy particulièrement, on avait eu le plaisir de voir défiler les calèches, les landaus, les coupés, les chaises de poste arrivant de Paris, pleines de femmes aux toilettes brillantes dont l'éclat illuminait la grande rue sombre d'un éclair rapide. Ce tourbillon de soie claire, de plumes, de dentelles, de harnais argentés, de cuivres étincelants, de panneaux armoriés, de chevaux aux robes luisantes, de laquais galonnés, avait laissé dans le vieux village une vision de la vie mondaine qui n'était pas encore éteinte. Aussi, que de regards curieux, quand le fils et le gendre de ce Chamontin étaient entrés dans la salle du grand théâtre du Châtelier. Le fils, on était habitué à le voir passer souvent, mais les chevaux de son phaéton qu'il conduisait lui-même allaient toujours d'un tel train que c'était à peine si ceux qui n'avaient point affaire au château le reconnaissaient. Quant au duc, il avait voyagé avec sa femme depuis son mariage et les occasions de l'apercevoir avaient été rares. « Ah, c'était ça, un duc ?» Il est vrai qu'il était peu séduisant, le duc, avec son visage étroit, ses yeux rapprochés, ses lèvres minces, son teint pâle, ses membres grêles, son air froid. Et cependant, si l'on ne s'en tenait pas à la première impression, et si l'on savait voir, on sentait que c'était un homme. Dans ses membres grêles, il y avait des muscles vigoureux que développaient l'exercice et l'escrime. Dans ses yeux, une flamme. Sous cette apparence froide et indifférente, une volonté puissante, sous cette mine chafouine, une dureté de caractère que déguisait mal la politesse des manières. Au contraire, Gaston Chamontin produisait une impression sympathique et rassurante. La belle tête régulière au teint frais, avec une longue barbe d'or soyeuse et frisée, la taille haute et bien prise, les épaules larges, la physionomie affable et ouverte, en tout, un beau garçon et un bon garçon.